Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et à 8h16, notre invité politique ce lundi matin, Guillaume Auffray. Il est président de Renaissance Morbihan, conseiller municipal à Vannes également. Il a fait la route pour être avec nous ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors, on va parler de politique, évidemment. On va parler des municipales tout à l'heure. Mais j'avais envie de vous entendre un petit peu sur les grands sujets qui préoccupent les Français et les Bretons, les Bretonnes, évidemment. Situation politique assez inédite, avec un budget qui ne se vote pas et qui est parti au Sénat. On ne sait pas ce que les sénateurs vont réserver à ce budget. Mais néanmoins, on parle déjà de lois particulières. On parle également de pouvoir imposer un budget. C'est un petit peu le terme par ordonnance. Où va-t-on et quelles vont être les conséquences aussi pour les Françaises, les Français, les Bretons, les Bretonnes ?
J'aimerais bien savoir vous dire où est-ce que l'on va. Malheureusement, je crois que personne ne sait vraiment, pas même le gouvernement, pas même le Parlement. C'est forcément inquiétant. Après, écoutez, on a ces garde-fous qui sont les lois spéciales et les ordonnances. Je vois pas forcément ça comme une imposition dans la mesure où le Parlement a l'occasion de s'exprimer, 149.3. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui s'exprime, c'est quelque chose qui est absolument incohérent, qui est même dangereux. Et que ce budget soit rejeté, c'est à la fois inquiétant, ça montre que le Parlement n'arrive plus à travailler. Et donc, du coup, ce sera au gouvernement de faire le nécessaire.
Alors, on a un Parlement fractionné qui est un petit peu à la couleur de la fracture de la société française. Et puis, il y a Emmanuel Macron. Alors, il est beaucoup pointé du doigt aujourd'hui. On a vu sa cote de popularité qui passe sous les 13%. Il est presque arrivé à la cote de popularité d'un certain François Hollande en son temps. Est-ce que c'est le problème, Emmanuel Macron, comme on l'entend beaucoup à gauche?
Je ne sais pas, mais en tout cas, le budget, il n'est pas voté par Emmanuel Macron. C'est pas lui-même qui le propose. Donc aujourd'hui, le principal problème, c'est votre première question, c'est le fait que la France aura-t-elle un budget ou non. Et ça, pour le coup, Emmanuel Macron n'est pas dans la question. C'est facile d'avoir un bouc émissaire de tous les problèmes. Très certainement que Emmanuel Macron est à l'origine de certains des problèmes. La dissolution n'a peut-être pas été la décision la plus adroite. Néanmoins, tout lui mettre sur les épaules, c'est peut-être un peu facile. Et s'imaginer un seul instant que le départ d'Emmanuel Macron résoudrait les fractures que vous évoquez me paraît très simple.
Alors justement, est-ce qu'il faut dissoudre, une fois encore, redemander aux Français d'aller aux urnes, comme on l'entend par exemple dans les rangs du Rassemblement National, ou est-ce qu'on va retrouver finalement la même fracture, le même paysage politique ?
Mais déjà, laissons le Parlement faire son travail. C'est vrai que là, nous sommes à mi-étape. Il y a une première lecture du budget au Parlement. On voit que le Parlement, l'Assemblée nationale n'arrive pas à faire son travail. Très bien, pour autant le travail n'est pas terminé. Peut-être qu'il y aura un retour à une forme de rationalité. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'appelle de mes voeux. Maintenant, il va falloir... et après, peut-être ayons cette conversation sur dissolution, pas dissolution, quelles sont les solutions sur la table. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de postures politiques qui expliquent en partie pourquoi ce budget a l'air aussi horrible et incohérent. J'ose espérer que face au mur, certains parlementaires reviendront à la raison.
On a vu le gouvernement faire un petit peu un appel du pied au PS pour essayer de trouver une voie de la raison. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Malgré tout, ça n'a pas suffi. Est-ce que la fracture est tellement profonde que finalement, on va ne pas avoir de budget avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'économie? On voit ce ralentissement, l'inquiétude des Français aussi qui ne consomment plus, ou en tout cas beaucoup moins, dans un contexte, là encore, économique compliqué. Est-ce que les conséquences peuvent être graves à terme, finalement?
Alors, peut-être, moi, je n'ai pas forcément la même impression que vous. C'est à la fois en termes de ralentissement, on a vu que les derniers chiffres de l'INSEE sur la croissance sont très bons, très bons. Ils sont bons. Et que par ailleurs, l'inquiétude dont vous parlez des Français, j'ai l'impression que les Français se désintéressent totalement de la politique et ne comprennent plus ce qui se passe. Ce qui fait que, et c'est ça qui est malheureux en tant qu'engagé politique, c'est qu'on a ces enjeux extrêmement forts pour le pays, et là je vous rejoins, et pour autant les Français qui ne comprennent plus et ne s'intéressent plus à la politique. Et ça, c'est comment est-ce que nous, politiques, on arrive à rendre les choses plus claires, plus intelligibles, et à faire avancer les grands enjeux de ce pays.
C'est dangereux quand les Français s'éloignent finalement de la chose politique, creusent un fossé entre eux et les représentants politiques.
Évidemment, c'est évidemment extrêmement dangereux dans une démocratie quand les citoyens ne croient plus au fonctionnement démocratique du pays, sont lassés, ne croient plus à leur politique, ou croient qu'ils sont corrompus ou tout simplement pas méritants de leur confiance. C'est très dangereux.
Avec une progression à gauche, avec LFI qui progresse, une forte progression aussi à l'extrême droite, avec le Rassemblement National qui progresse beaucoup. On a vu ces images de Jordan Bardella qui était hier à Saint-Malo pour la signature de son livre. On a vu le nombre de sympathisants du Rassemblement National. Ici, en Bretagne, il gagne du terrain aussi. Est-ce que là aussi, c'est une source d'inquiétude pour vous ?
On a déjà eu l'occasion d'échanger sur ces sujets, de la montée des extrêmes, en particulier dans notre territoire. Moi, ce que je perçois déjà, c'est qu'à gauche, je ne perçois pas de grosses dynamiques en faveur de la gauche. Peut-être une meilleure répartition, avec un parti socialiste qui semble reprendre un peu d'énergie face à LFI. Je ne sais pas si ça va durer. Et par contre, oui, une montée forte, très forte, du Rassemblement National. Et c'est vrai que cette signature que vous évoquez à Saint-Malo du livre de Jordan Bardella est plus qu'inquiétante. Elle est inquiétante parce que je suis convaincu que les solutions proposées par le Rassemblement National ne sont pas des bonnes solutions pour notre pays. Que le positionnement du Rassemblement National en termes de relations internationales, leur proximité avec Vladimir Poutine, est extrêmement inquiétante pour notre pays et pour l'Union européenne. Et que plus particulièrement sur les réponses économiques, parce qu'on vous l'avez dit, il n'y a pas assez de croissance dans ce pays, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, et que ce qu'ils proposent, ce sont des solutions populistes, simplistes, qui ne résoudront rien.
Est-ce que finalement c'est sur la bataille de la sécurité ou de la sécurité que le Rassemblement National gagne du terrain ? Là, on le voit aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de faits divers, de faits de société également. Est-ce que c'est sur ce terrain-là, peut-être, que les partis traditionnels peuvent combattre le Rassemblement National ?
Je pense que la première chose, c'est que les partis traditionnels n'ont pas réussi à répondre aux principaux problèmes que ressentent les Français. Vous avez évoqué l'insécurité, mais il n'y a pas que le pouvoir d'achat que j'ai évoqué tout à l'heure. Les Français n'ont pas l'impression de vivre mieux ou que leurs enfants puissent vivre mieux qu'eux, ou alors au même âge. C'est un gros sujet. L'immigration, avec cet aspect de ne plus vouloir autant d'immigration et pourtant de percevoir une très forte immigration au sein du pays et des conséquences négatives dans la vie quotidienne de chacun, qu'est-ce que les partis traditionnels ont à apporter ? Ce sont aujourd'hui des réponses qui sont schizophrènes et qui sont malheureusement aussi à l'image de ce que souhaitent les Français. C'est-à-dire moins d'immigration, mais en même temps, les immigrés proches de chez eux, ce sont des immigrés auxquels ils tiennent. Et donc c'est très compliqué, quand on est politique, de savoir répondre à ces deux envies contradictoires des Français.
Il y a aussi cette forte poussée du Rassemblement National. Alors là, je reviens à la Bretagne, terre qui n'est pas forcément la terre d'élection du Rassemblement National. Ça va nous amener dans un instant au municipal, mais est-ce que finalement des enjeux sont en train de naître en Bretagne avec le Rassemblement National, enjeux politiques, là encore, pour les municipales par exemple ?
Oui, je ne sais pas si les enjeux de thématique Rassemblement National vont vraiment changer la donne, puisque à mon sens, dans les élections municipales, les enjeux de sécurité notamment que vous évoquez sont des enjeux qui sont très forts et qui l'étaient déjà en 2020 et qui me semble étaient déjà en 2014. Le trafic de drogue, c'est pas quelque chose de nouveau dans nos communes. Par contre, l'intensité du problème, oui, il n'y avait pas autant de fusillades à Rennes et à Nantes, il fut un certain temps.
Le narcotrafic, il gagne aussi des petites villes, villes moyennes, on peut le voir ici à Saint-Brieuc, mais aussi la campagne.
Oui, certes, et ça deviendra un sujet. Après, les outils à la main des maires ne sont pas non plus pléthores, et donc c'est un sujet, il faut répondre de manière ferme, c'est sûr. Peut-être que certains maires le font pas assez, il y a certaines polices municipales qui ne sont pas armées, ça pose question dans certaines villes de Bretagne. Je pense notamment à Brest. Et maintenant, il va falloir peut-être bouger sur ces sujets-là. Pour autant, il y a déjà beaucoup qui est fait. À mon sens, le vrai changement, c'est que le Front National sera en capacité, dans un certain nombre de communes, de se maintenir au second tour et va bousculer des équilibres politiques en place et va probablement affaiblir beaucoup la droite et le centre-droit. Et c'est malheureux, mais c'est ce qui risque de se passer.
On a le sentiment, vous parliez tout à l'heure de ce fossé qui s'est creusé entre les Français, les citoyens et leurs représentants politiques. Est-ce que justement, il n'y a pas une faute des gouvernements successifs? On peut mettre le gouvernement Macron ou les gouvernements Macron dans le lot, qui n'ont pas su répondre, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas entendu les Français?
Évidemment, c'est-à-dire que quand on regarde là où la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la défiance totale des Français, évidemment que l'ensemble des gouvernements des 15 dernières années, quelle que soit leur couleur politique, ont failli. Pour autant, la mission était très difficile, parce que si vous regardez, on prend un pas de recul, partout en Europe, les partis populistes sont en train de monter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de pointer l'incompétence de nos dirigeants politiques d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi les exigences beaucoup plus fortes de nos citoyens envers la politique et la difficulté d'exercer la démocratie dans un monde où il y a des chaînes d'information continue, où il y a des réseaux sociaux, et que c'est peut-être la politique qui est devenue un art beaucoup plus compliqué à exercer aujourd'hui.
Avec, là aussi, un contexte, hein, vous le rappeliez à l'instant, contexte européen et plus largement mondial, si on regarde un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, de cette progression des populismes. Ceci dit, on entend souvent les Français qui disent « Ben oui, mais ça marche ailleurs, pourquoi pas chez nous ?» C'est souvent ce que l'on entend. Et comment répondre à ça ?
Écoutez, faut regarder point par point. Est-ce qu'on parle de politique migratoire? Ça marche ailleurs. On va nous prendre le cas du Danemark, par exemple. Mais très bien, le cas du Danemark, en effet, on en renvoie plus de QTF chez soi. Pour autant, on arrive beaucoup moins à intégrer les personnes issues de l'immigration. Au Danemark, il y a 15 points de différence dans les réussites à l'école entre un enfant né danois, mais né de parents immigrés, versus un Danois plus natif. C'est extrêmement important. Je pense qu'il n'y a pas seulement des questions de est-ce qu'on arrive à les renvoyer chez eux, c'est est-ce qu'on arrive aussi à intégrer les gens qui sont chez nous. C'est des questions qui sont extrêmement importantes. Il faut prendre l'ensemble. Donc, pour répondre à votre question sur tout est mieux ailleurs, écoutez, je sais pas trop, mais je trouve qu'on a, et on l'oublie peut-être, on a beaucoup de chance de vivre en France. Notre système de santé, quand bien même il vit de grandes difficultés, il est, on ne paye pas grand-chose, il est encore de grande qualité. La sécurité, on parle de la mexicanisation du pays, je crois qu'on en est encore très loin, et heureusement.
Il y a une inquiétude quand même quand on voit ce qui se passe à Marseille.
Oui, oui, et on a raison d'être inquiet, parce qu'il faut lutter, et parce qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond et qui devraient fonctionner différemment. Pour autant, on a aussi le droit de ne pas monter directement dans les tours et de se comparer au pire, quand en réalité on en est encore loin. Il faut rester, je pense, sur les faits, et aussi se rendre compte peut-être de la chance qu'on a de vivre dans ce pays, ce qui ne veut pas dire qu'il est parfait, mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'auto-flageller de trop non plus.
Il y a aussi le pouvoir d'achat, vous en disiez un mot à l'instant, Guillaume Auffray. Le pouvoir d'achat, c'est une inquiétude. Beaucoup de Français, l'hiver arrive, ne se chauffent pas ou ne peuvent pas se chauffer parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture d'électricité. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une urgence à avoir pour répondre tout de suite à la demande?
Si, alors une urgence, ça fait longtemps qu'on a. C'est pour ça que le mot urgence me surprend un peu, parce que à mon sens, ça fait très longtemps qu'on parle du pouvoir d'achat, et aujourd'hui, c'est vrai que le travail ne paye pas suffisamment. On a une forme de précarité sociale qui existe et qui est latente dans ce pays. Et à mon sens, ce qui est problématique, c'est qu'on ne produit pas assez de valeur dans ce pays et qu'on ne soutient pas assez les gens qui ont envie de créer de la valeur, les entrepreneurs notamment. Et c'est une priorité, à mon sens, que d'essayer de libérer de la création de valeur dans ce pays, c'est-à-dire de permettre aux gens qui veulent plus travailler de le faire et donc d'être rémunérés à la hauteur de cet effort supplémentaire. C'est malheureusement pas suffisant, et ce n'est pas en faisant pleuvoir de l'argent public en supplémentaire qu'on va régler le problème, alors qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État.
Avec la possibilité de lever des impôts, on a entendu beaucoup la gauche dans son ensemble plaider pour la taxe Zucman ou la taxe Zucman allégée qui n'a pas été adoptée, ou si on va du côté de LFI, la France Insoumise qui plaide pour qu'on taxe plus encore les grandes fortunes, comme l'on dit d'une façon générique. Là aussi l'idée est mauvaise.
La gauche est, à mon sens, complètement caricaturale, a toujours proposé plus de taxes, plus d'impôts comme solution à tous les problèmes de ce pays. À chaque fois que vous parlez de problématiques, soit l'éducation, l'hôpital, les services publics, l'armée, ce n'est que des questions de « il faut dépenser plus ». eh bien moi je suis convaincu qu'on peut dépenser mieux et qu'aujourd'hui il s'agit d'abord de restituer de la valeur aux Français en baissant les impôts et en revoyant la voilure de notre système social. C'est essentiel si on veut garder de la pérennité pour la générosité de notre système et c'est un très bon système.
On parle aussi de l'armée. Vous venez de prononcer le mot aujourd'hui. On est dans un contexte géopolitique compliqué. Un plan de paix se dessine à Genève, un petit peu au forceps, si vous me permettez.
On l'espère.
Voilà, un plan de paix porté par Donald Trump, qui essaie de mettre un petit peu l'Union européenne de côté. Mais malgré tout...
Il le fait.
Voilà, mais l'Union européenne est là quand même. Voilà, plan de paix donc, qui se dessine. Et puis, de nouvelles menaces. On a entendu beaucoup ces derniers jours... parler de la Russie, en particulier le général Mandon qui a fait peur aux Français, il n'y a pas d'autre mot, en disant qu'il fallait accepter de perdre ses enfants. Il a évoqué l'éventualité d'une guerre avec la Russie. Mais il faut noter que c'est aussi la petite musique que l'on entend de la part de plusieurs chefs d'état-major dans différents pays européens. Est-ce que finalement, il faut se préparer à une confrontation avec la Russie et il faut préparer les esprits ou est-ce que c'est peut-être une peur agitée, peut-être de façon un petit peu mal placée ?
Écoutez, déjà, le général Mandon n'a fait que répéter des choses qui sont présentes dans la feuille de stratégique française de défense. Et donc, ce sont des éléments qui existent déjà, dits autrement. Forcément, quand c'est dit au Salon des maires, à tous les Français, ça surprend.
C'est la forme, finalement, qui a surpris.
C'est la forme qui a surpris, mais peut-être qu'on avait besoin d'être surpris. Parce que je crois qu'il y a un moment donné, on ne peut pas se cacher derrière un langage administratif et militaire quand les menaces sont aussi présentes. Et certes, on a l'habitude, depuis la fin de la guerre froide, de s'imaginer qu'on vit dans un pays en paix, où tout le monde nous veut du bien, et qu'il suffit de vouloir la paix pour que la paix arrive. Mais je crois que ce qu'a démontré la guerre en Ukraine, c'est que même quand on souhaite la paix, on peut obtenir la guerre, et que donc du coup, il faut s'y préparer.
S'y préparer, ça veut dire aussi surveiller, ça veut dire mettre en place ces technologies, on le voit avec la cyberdéfense, particulièrement ici en Bretagne. On le voit aussi avec les hommes, les femmes qui vont devoir animer cette armée de demain, la faire fonctionner. Et là, on voit le retour du service militaire sur la base du volontariat. Mmh. C'est une volonté du président de la République. Là aussi, l'idée est bonne. Est-ce qu'il y aura assez de volontaires ?
Je le souhaite et je trouve que c'est une excellente idée de le faire sur la base du volontariat. Je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de personnes en France, de jeunes, peut-être même de moins jeunes, qui souhaitent être formés, qui comprennent la valeur du sacrifice pour la nation et qui comprennent aussi les enjeux pour notre pays. Qu'il y a certaines personnes qui ne le souhaitent pas, tant mieux pour elles, c'est dommage pour le pays. Pour autant, nous devons commencer à nous préparer, déjà avec les volontaires et on verra pour la suite.
Ça veut dire aussi mettre des moyens. On le voit, le budget de l'armée a été augmenté.
Largement
augmenté.
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron.
Et ça, là aussi, ça fait grincer des dents. On a dit, voilà, on augmente le budget de l'armée. Pourquoi ne pas augmenter, par exemple, le budget de la santé, ou là encore, les aides aux entreprises, etc. Ce sont des choix politiques, finalement.
Parce que demain, si la Russie affaiblit très fortement l'Union européenne, il y aura une vitalité économique bien moindre dans ce pays et il n'y aura plus d'argent pour financer nos hôpitaux. Et à un moment donné, il faut comprendre que la sécurité, c'est la première gage de nos libertés et de notre prospérité. Sans prospérité, il n'y a pas d'hôpitaux dans ce pays. Donc, il y a un moment donné, il faut remettre la priorité dans les éléments. Et je comprends qu'on se dit, ah bah oui, mais se soigner, c'est quand même beaucoup plus important. Mais c'est pas juste pour faire des défilés du 14 juillet, l'armée, en fait. Ça sert vraiment à nous défendre. Il faut pas l'oublier.
Il y a une peur qui s'installe dans le pays avec ces propos. Là encore, c'est pas rajouter un peu du marasme au marasme ?
Mais non. Il y a un moment donné, affronter la réalité, c'est pas être dans le marasme. Voir que la Chine est extrêmement dynamique, que les États-Unis sont dans une relation hyper transactionnelle dans laquelle ils nous mettent de côté, vous l'avez dit vous-même. Enfin, il y a un moment donné, il faut prendre les choses en main, ce n'est pas du marasme, c'est juste affronter. Et peut-être que dans cette réalité, il y a aussi des opportunités. Mais oui, le monde des bisounours dans lequel il suffit d'être gentil et que nous, on veut la paix et on va tous s'en sortir et on va tous, grâce à l'ONU, devenir de grands gentils humains qui vont aller sur Mars, ça ne marche pas aujourd'hui, dans cette réalité-là, peut-être demain. Il ne s'agit pas de complètement mettre nos valeurs de côté, mais c'est juste que nos valeurs sont attaquées, ces valeurs européennes, justement de collaboration, de vouloir aborder les sujets comme le réchauffement climatique de manière collective. Aujourd'hui, cette logique-là, elle est opposée par certains grands pays, que sont d'abord la Russie, mais aussi la Chine, et maintenant les États-Unis. Et pour cela, il faut être fort, et ça implique une défense forte.
Ça implique aussi que la France se fasse entendre dans le concert des nations. On voit qu'il y a un bouleversement géopolitique. Vous faisiez référence à la Chine, les pays émergents, comme l'on dit, qui aujourd'hui, finalement, ne sont plus si émergents que ça. Ils tiennent une forme d'économie qui nous tient aussi un petit peu au niveau européen. Est-ce que là aussi, il va falloir défendre les intérêts de l'Europe, mais aussi de la France ?
Mais on les défend. On les défend déjà beaucoup, enfin je sais pas, mais on est le premier marché au monde, l'Union européenne. Vous l'avez vu lorsqu'il s'est agi des droits de douane, l'Union européenne, d'une certaine manière, a eu beaucoup de mal à se défendre face aux États-Unis. On a 15% de droits de douane, on n'a rien répondu. Maintenant, 15%, c'est tout petit par rapport à ce qu'il a imposé à bien d'autres pays. Et je pense qu'il faudrait réfléchir à tous ceux qui disent que l'Union européenne ne sert à rien, à ce qui est arrivé à la Suisse, qui a eu 30% de droits de douane, soit deux fois plus, et tout ça en étant tout seul, et en étant très gentil, et toujours pour la paix, parce que c'est un État neutre. Et vous voyez ce que ça leur a donné ? Pas grand-chose. Donc il faut bien regarder ce que ces différentes choses-là apportent.
C'est un éloignement quelque part des États-Unis. Il y a une fracture entre l'allié depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale et même avant. C'est une fracture. C'est plus comme avant les relations entre la France ou l'Europe plus largement et les États-Unis.
Il y a une certaine innocence qui est perdue, c'est sûr. Avant, du fait du partage de nos valeurs communes. Du fait aussi que les Américains ont décidé de prendre la défense de l'Union européenne en stationnant leurs soldats, en payant pour notre défense, il y avait cette relation très imbriquée entre États-Unis et Europe, et ces fils sont en train de se distendre petit à petit. On le ressent peut-être un peu moins en France, puisque la France est moins liée aux États-Unis que le reste de nos partenaires européens, et pour autant ça reste un allié très fort. Mais oui, aujourd'hui l'Europe va devoir, dans ce monde très dangereux et difficile, avec des pays émergents qui ont leurs propres envies, trouver son propre chemin, probablement sans les États-Unis.
Et ça passe aussi par une défense européenne aujourd'hui ?
Très certainement, à construire étape par étape. On en est encore loin. Et aujourd'hui, les briques sont d'abord des briques nationales. C'est pour ça qu'on parle de service militaire français, avec notre réflexion militaire française. Mais pour avoir une bonne réflexion militaire européenne, il faut une bonne réflexion militaire et de bons investissements français.
J'ai envie de parler aussi de ce qui touche les Français au plus près, c'est-à-dire les élections municipales qui arrivent très vite finalement, et là on le sait aujourd'hui, les maires sont quand même le premier échelon de la République avec lequel les Françaises et Français sont en contact. Ils aiment bien leur maire d'ailleurs, les Françaises et Français, ça reste la personne politique la plus aimée. On sait que les états-majors aujourd'hui préparent ces élections. J'ai envie de vous poser la question très directement, ça se passe comment à Renaissance ?
Écoutez, ça se passe bien. Dans notre département du Morbihan, on a identifié un certain nombre de chefs de file qui, en lien avec d'autres partis politiques ou personnalités politiques départementales, constituent des dynamiques locales dans les principales villes du département, avec pour idée de maximiser notre nombre d'élus et de faire valoir nos idées plus centristes, social-démocrates, au sein des différents exécutifs. On le souhaite à la fin de ces élections.
Est-ce que ça va être facile d'y aller tout seul, ou est-ce qu'il va falloir nouer des alliances ? On peut imaginer une forme d'alliance droite-centre, peut-être jusque les forces progressistes. On peut imaginer le centre-gauche rejoindre le centre ?
Oui, aujourd'hui les dynamiques sont avant tout locales, donc ça dépend des réalités de chaque. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'une élection municipale, ça se gagne sur le rassemblement. Donc à partir de là, de partir juste sous nos couleurs, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut plutôt essayer de trouver des points de convergence, des ponts avec des familles politiques qui, en effet, comme vous l'avez dit, peuvent aller des progressistes jusqu'à la droite en fonction des territoires et des différentes sensibilités des uns et des autres pour essayer de construire les vecteurs de la victoire dans ces différentes communes.
Il y a des discussions en cours aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais il y a des discussions en cours.
Ah bah, il y a non seulement des discussions en cours, mais il y a des discussions qui sont même closes, c'est-à-dire que les dynamiques sont engagées, les accords sont faits, on avance bien. Je pense notamment à la ville de Lorient ou à Auray, qui sont deux communes sur lesquelles nous avons de gros espoirs, donc les choses avancent positivement.
Et si je vous pose la question pour Vannes, c'est encore un peu tôt ?
Non, sur Vannes, c'est pas tôt. Là, pour le coup, les discussions sont beaucoup plus compliquées. C'est lié à la situation politique très locale. Et du coup, se pose la question de porter une dynamique indépendante, différente, alternative, pour porter un message différent de celui du maire sortant.
Vous parliez des alliances, elles sont importantes. Mmh. On parlait tout à l'heure du Rassemblement National qui gagne un petit peu partout en Bretagne, qui cherche aussi à conquérir quelques villes moyennes. Là aussi, il faut que l'union soit forte, qu'il n'y ait pas de désunion.
Écoutez, on verra le soir des élections municipales en mars prochain, mais aujourd'hui, je n'ai pas le ressenti. Quelles que soient les communes moyennes auxquelles vous pensez, et j'en vois quelques-unes en tête, je ne vois pas le Rassemblement National arriver à conquérir des villes aujourd'hui en Bretagne. Des villes, peut-être des villages, je ne sais pas. Ce qui veut dire que... aujourd'hui, cette question des alliances pour empêcher le Front National d'obtenir des villes, à mon sens, ne se pose pas en Bretagne. Peut-être que la question se posera demain. Pour autant, les thématiques du Front National vont influencer cette élection, c'est sûr. Et pour autant, ça change les équilibres et ça peut, comme je l'expliquais tout à l'heure, faire perdre certaines dynamiques, notamment à droite, sur certaines élections très spécifiques.
On a aussi des bastions de gauche, on pense à Brest, on pense à Rennes, entre autres. Là aussi, la gauche part très divisée. Est-ce que ça peut être une opportunité pour le centre droit ?
Je ne sais pas si c'est très divisé, puisque finalement, les écologistes partiront avec Nathalie Appéré dès le premier tour à Rennes. C'est quand même un signal assez fort. Je crois que c'est la même chose qui va se passer à Brest. Alors après, par contre, il y a une division, en effet, entre les insoumis et les socialistes écologistes. C'est quelque chose, c'est des divisions qu'on retrouvera un peu partout en Bretagne, et pas que. Ce qui fait que je ne sais pas comment ça jouera sur le peuple de gauche, les alliances de second tour, etc. Moi, je peux que me réjouir que les insoumis soient mis de côté pour la démocratie, parce que je crois qu'ils incarnent une certaine pratique du pouvoir dans le conflit permanent, le fait de cliver les Français les uns contre les autres, qui est dangereux. Je trouve ce développement intéressant, après à voir s'il se confirmera et les seconds tours des élections municipales.
Une dernière question, Guillaume Offray. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui n'est pas au mieux, on l'aura compris, est-ce que justement l'ombre du président va planer, en tout cas de sa politique, va planer sur ces élections ?
Je ne le souhaite pas, je ne sais pas, et je ne le souhaite pas. Alors vous allez me dire, c'est très intéressé de votre part, évidemment, vu le niveau de popularité, mais c'est juste que je ne le souhaite pas parce que ce serait se tromper d'enjeu. Il y a des enjeux trop importants dans nos différentes communes pour se tromper dans son bulletin de vote, de mettre un bulletin de vote anti-Macron quand il s'agit surtout de mettre un bulletin de vote pour le développement de sa commune sur les 6 prochaines années, peut-être 7. C'est quand même extrêmement important. Donc réfléchissez bien au programme, réfléchissez bien aux candidats et concentrez-vous là-dessus. C'est déjà bien assez compliqué comme ça.
Un dernier mot sur le programme précisément. Il sera le même partout ou c'est un programme qui va être adapté en fonction des territoires ?
Je pense que chaque territoire, Saint-Brieuc comme Vannes, ont des sujets très différents, parfois qui convergent, je pense au logement, parfois qui divergent, la vacance commerciale. Et pour cela, il va falloir adapter, et je pense que ça ressemble plus à de la dentelle que à du Shein, tout pareil sur toute la Bretagne.
Voilà, on aura compris que la diversité est importante en Bretagne. Guillaume Offray, président de Renaissance Morbihan, conseiller municipal à Vannes, était notre invité ce lundi matin, invité politique de la matinale de Bretagne 5. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.